Bonjour à tous, Antoine Labbé, professeur d'ophtalmologie au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20. Je vais vous parler aujourd'hui du glaucome. Qu'est-ce que le glaucome? Quelle est l'importance du problème lié au glaucome? Et comment fait-on le diagnostic du glaucome? Un deuxième cours, réalisé par le professeur Baudouin, va aborder la thérapeutique du glaucome et les dernières avancées en recherche. Mes liens d'intérêt. Alors, c'est quoi le glaucome? En fait, ce n'est pas une maladie, c'est un ensemble de maladies. On parle de famille de maladies du nerf optique, puisque le glaucome est une maladie du nerf optique qui se caractérise par la mort progressive des cellules qui composent le nerf optique, des anomalies de la papille et une atteinte concordante du champ visuel. C'est très important de comprendre que le glaucome n'est pas simplement l'élévation de la pression intraoculaire, mais une dégénérescence progressive des cellules qui constituent le nerf optique. Le nerf optique est un nerf qui véhicule l'information depuis l'œil jusqu'au cerveau. Ce nerf est constitué d'axones, c'est-à-dire d'une partie d'une cellule, l'axone des cellules ganglionnaires de la rétine. Ces cellules ganglionnaires de la rétine composent une partie de la rétine. La rétine dite neurosensorielle, c'est-à-dire qui capte l'information lumineuse, est faite de différentes cellules. Les photorécepteurs sont les cellules qui captent la lumière. Ces photorécepteurs vont transmettre l'information aux cellules ganglionnaires par l'intermédiaire de cellules bipolaires. Ces cellules ganglionnaires ont un axone, donc un prolongement, qui va aller de la rétine jusqu'au cerveau. Et c'est ces prolongements qui constituent le nerf optique. Vous avez ici sur la droite une image, un dessin du fond d'œil représentant les axones des cellules ganglionnaires qui partent de la rétine et constituent le nerf optique. Pour faire simple et peut-être un peu trivial, le nerf optique est finalement comme un paquet de spaghettis. C'est donc un tuyau à l'intérieur desquels on retrouve des fibres, c'est-à-dire les axones des cellules ganglionnaires qui transmettent l'information de la rétine au cerveau. Le glaucome, c'est donc la perte de ces axones ou la dégénérescence progressive de ces axones du nerf optique. Lorsqu'on arrive sur Terre, un nouveau-né a un certain nombre d'axones fonctionnels au niveau de son nerf optique, un certain nombre de fibres. Avec l'âge, on perd ces fibres. Entre 2500 et 4000 fibres perdues par an, ça dépend de l'âge. Pour avoir une atteinte fonctionnelle, c'est-à-dire une atteinte qui donne des symptômes, il faut avoir perdu à peu près 50% de ces axones. Qu'est-ce que c'est que le glaucome? C'est tout simplement la dégénérescence, l'accélération de la perte des axones des cellules ganglionnaires rétiniennes. Et l'objectif du traitement qui va vous être présenté dans la deuxième partie, c'est de justement de ralentir la perte pour revenir le plus proche de la perte physiologique. Donc il faut bien comprendre que le glaucome, c'est une maladie du nerf optique caractérisée par une perte progressive des axones qui constituent le nerf optique. Alors, comme dans toute maladie, quels sont les facteurs de risque de glaucome? Eh bien, les facteurs de risque de glaucome, c'est tout d'abord l'élévation de la pression intraoculaire. Donc, il y a un lien entre glaucome et pression intraoculaire, puisque l'élévation de la pression intraoculaire est le principal facteur de risque de glaucome. Et vous allez voir, c'est d'ailleurs le seul traitement dont on dispose dans le glaucome, c'est de faire baisser la pression intraoculaire. Mais il y a d'autres facteurs de risque de glaucome, l'âge, les antécédents familiaux. Si effectivement dans la famille, il y a déjà des patients qui ont un glaucome, on a donc un risque augmenté de développer un glaucome. L'origine ethnique africaine, afro-caribéenne, ces patients ont plus de risques de développer un glaucome que les patients d'origine caucasienne. L'épaisseur de la cornée, le fait d'avoir une cornée fine, est un facteur de risque plus important de développer un glaucome. C'est également la même chose pour la myopie forte. La probabilité de développer un glaucome augmente avec l'importance de la myopie. Alors, quelle est la relation entre l'augmentation de la pression intraoculaire et le glaucome? Cette relation est complexe. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que l'élévation de la pression intraoculaire, donc une pression intraoculaire trop haute, c'est un facteur de risque de développer un glaucome. Et d'ailleurs, le seul traitement efficace consiste à réduire la pression intraoculaire. Néanmoins, cette relation est plus complexe puisque certains patients ont une élévation de la pression intraoculaire sans forcément avoir un glaucome. Et d'autres patients ont un glaucome sans qu'on ait pu mesurer une augmentation de la pression intraoculaire. Donc vous voyez bien que la relation entre la pression intraoculaire et le glaucome est complexe. L'élévation de la pression intraoculaire est le principal facteur de risque. Néanmoins, on peut tout à fait développer un glaucome avec une pression intraoculaire dite normale. C'est ce qu'on appelle le glaucome à pression normale. Alors, quelle est la théorie des lésions, de l'atteinte du nerf optique dans le glaucome? En fait, il y a deux grandes théories qui s'affrontent. Une théorie mécanique qui laisserait penser que l'augmentation de la pression intérieure à l'intérieur de l'œil entraîne une compression des fibres du nerf optique lors de sa sortie de l'œil, au niveau de ce qu'on appelle la papille. Donc c'est une théorie mécanique. La pression monte, ça abîme le nerf optique en appuyant dessus, tout simplement. Et une théorie vasculaire, cette théorie vasculaire est basée justement sur le fait que certains patients développent une atteinte sans avoir d'élévation de la pression intraoculaire. La théorie vasculaire voudrait penser que le nerf optique s'abîme car les vaisseaux qui en fait amènent l'oxygène et le sang au nerf optique sont abîmés. Aujourd'hui, on arrive plutôt à une théorie biomécanique mélangeant à la fois des éléments mécaniques. La théorie des lésions du nerf optique dans le glaucome est donc complexe. Il y a évidemment le rôle de l'hypertonie oculaire qui va entraîner un mécanisme mécanique de destruction des axones du nerf optique. Il y a aussi une théorie d'activation de tout ce qu'on appelle les cellules gliales. Il faut savoir que le nerf optique est constitué des axones, des cellules ganglionnaires, mais aussi d'autres cellules, dites cellules de soutien, qui sont très importantes puisqu'elles nourrissent, entre guillemets, les axones. Et on peut imaginer que l'hypertonie oculaire entraîne des altérations au niveau de ces cellules de soutien qui, en réaction, entraînent une altération des cellules ganglionnaires. L'autre hypothèse, c'est les hypothèses d'apoptose, c'est-à-dire que ces cellules ganglionnaires ont dans leur patrimoine génétique des mécanismes de mort cellulaire prématurée par rapport à un sujet normal. Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que cette mort cellulaire entraîne par elle-même d'activation de facteurs qui vont entraîner la mort cellulaire voisine, ce qui explique un espèce de cercle vicieux au niveau des axones, au niveau de ces cellules ganglionnaires, la mort des unes provoquant la mort des autres et donc petit à petit la dégénérescence du nerf optique. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il n'y a pas de théorie univoque de la destruction du nerf optique dans le glaucome. C'est des mécanismes multiples. Néanmoins, l'élévation de la pression intraoculaire est le principal facteur de risque. Alors, vous avez compris qu'il y avait plusieurs types de glaucome et on sait classifier les types de glaucome. Vous avez ici une coupe de l'œil où on voit effectivement différentes structures. Il faut savoir que l'œil, c'est comme un ballon rempli de liquide. Il y a un liquide situé dans la partie antérieure de l'œil, ici au niveau du bleu, qui s'appelle l'humeur aqueuse. On a un autre liquide, ici la partie verte, qui s'appelle le vitré. Le vitré a une consistance à peu près comme du blanc d'œuf. L'humeur aqueuse est plus proche de l'eau. La pression intraoculaire dans l'œil réside d'un équilibre entre l'humeur aqueuse qui est produite ici par ce qu'on appelle les procéciliaires en arrière de l'iris et la partie qui est éliminée ici par le trabéculum. Lorsqu'il y a plus d'humeur aqueuse qui est produite que d'humeur aqueuse qui est éliminée, la pression intraoculaire monte dans l'œil et c'est le principal facteur de risque de glaucome. Vous avez ici une coupe de ce qu'on appelle l'angle iridocornéen. C'est l'angle entre l'iris et la cornée. Dans cet angle se situe ce qu'on appelle le trabéculum. Ce trabéculum est une zone très importante puisque c'est le filtre de l'œil. C'est par le trabéculum que s'élimine l'humeur aqueuse. Et donc c'est ce trabéculum qui contrôle, entre guillemets, la pression intraoculaire puisque quand le trabéculum filtre moins l'humeur aqueuse, la pression augmente à l'intérieur de l'œil. C'est ce qu'on appelle l'hypertonie oculaire qui est le principal facteur de risque de glaucome. Ce trabéculum peut s'abîmer tout simplement parce qu'il dégénère. Il se fibrose avec l'âge, c'est le mécanisme du glaucome primitif à angle ouvert, mais il peut aussi s'encombrer par du pigment ou par des dépôts, c'est ce qu'on appelle les mécanismes des glaucomes secondaires à angle ouvert. Et puis, il peut s'abîmer tout simplement parce que l'iris vient se mettre dessus. Et ça, on rentre dans une catégorie qu'on appelle les glaucomes à angle fermé. Qu'est-ce qui se passe dans l'angle fermé? C'est tout simplement l'iris qui vient se plaquer sur le filtre de l'œil, le trabéculum. Ça entraîne une fermeture, une obstruction du trabéculum, et ça c'est ce qu'on appelle les glaucomes à angle fermé. Donc vous voyez, il y a deux grands types de glaucomes, les glaucomes dits à angle ouvert et les glaucomes à angle fermé. Ça c'est lié à ce qu'on appelle l'angle iridocornéen et son ouverture, soit l'angle iridocornéen est ouvert, soit l'angle iridocornéen est fermé. Après, on a d'autres types de glaucomes comme le glaucome congénital, mais qui est lié à une malformation de l'angle iridocornéen. Il en existe d'autres, néanmoins, Par souci de simplicité, il faut comprendre qu'il y a les glaucomes à angle ouvert, les glaucomes à angle fermé et le glaucome congénital qui est un type de glaucome malformatif. Voici un exemple de ce qu'on appelle une coupe du segment antérieur de l'œil avec un angle qui est ouvert. Et vous voyez ici la même coupe avec un angle qui est fermé. Et vous imaginez bien que si l'humeur aqueuse se résorbe dans l'angle iridocornéen, si l'iris vient se mettre devant l'angle iridocornéen, à ce moment-là, on a une élévation de la pression intraoculaire par un mécanisme de fermeture de l'angle. Quelle est l'implication des gènes dans le glaucome? On sait qu'il existe une forte corrélation entre les antécédents familiaux et le glaucome. Donc le glaucome est une maladie hautement d'origine génétique. Néanmoins, le mécanisme précis de l'hérédité est inconnu, c'est-à-dire qu'on n'a pas été capable d'identifier un gène particulier responsable du glaucome. Un gène a été identifié, mais il ne correspond que pour une infime partie des glaucomes, probablement moins de 5%. C'est ce qu'on appelle le gène de la myocyline. Et ce gène, vous voyez, ne compte pas pour la majorité des glaucomes. Tout simplement que le glaucome provient d'une modification de plusieurs gènes ou d'interaction d'anomalies de gènes entre eux. Il y a également probablement des facteurs environnementaux, c'est-à-dire des facteurs extérieurs qui viennent influencer l'expression des gènes chez un patient donné. Alors, quelle est l'importance du glaucome? Est-ce que c'est une maladie fréquente? Eh oui, c'est une maladie extrêmement fréquente et surtout sévère. Pas sévère pour tout le monde, mais sévère pour une partie des patients. Et d'ailleurs, on estime en 2020 qu'il y a à peu près 80 millions de patients atteints de glaucome dans le monde. Et voyez, plus de 11 millions de patients ont une cécité bilatérale liée au glaucome. Le glaucome est la seconde cause de cécité irréversible à travers le monde. Parce que la première cause de cécité, c'est la cataracte, mais c'est réversible grâce à une intervention chirurgicale. Le glaucome est la seconde cause de cécité irréversible après les maladies maculaires. Donc vous voyez, c'est une cause très fréquente de perte de la fonction visuelle. En Europe, c'est à peu près 20% des cas de cécité. En Europe, la cécité est majoritairement liée à la DME. Alors pourquoi dans le glaucome on a un risque de cécité? Tout simplement que le glaucome entraîne une atrophie du nerf optique, le nerf optique conduisant l'information lumineuse de la rétine au cerveau, ça entraîne ce qu'on appelle une altération du champ visuel. Lorsque l'ensemble du champ visuel est altéré, eh ben, on a une perte complète de la vision. L'acuité visuelle est en général préservée très longtemps dans le glaucome, puisque c'est d'abord le champ visuel périphérique qui est atteint avant d'atteindre le centre de la vision. Ce n'est pas vrai pour tous les types de glaucomes. Certains patients vont développer des glaucomes avec une atteinte près du centre qui commence initialement et puis qui développe des atteintes périphériques. Mais c'est plus rare. Alors en France, quelle est la fréquence du glaucome? Donc on a parlé du rapport entre pression intraoculaire et glaucome. Bah, l'hypertonie oculaire, c'est-à-dire le principal facteur de risque de glaucome, l'élévation de la pression intraoculaire, est présent, vous voyez, de 3 à 5% chez les sujets de moins de 40 ans et près de 10% chez les sujets de plus de 60 ans. On estime en France la prévalence du glaucome entre 2 et 3%. Cette prévalence augmente avec l'âge. Ce qui est plus important, c'est qu'on estime qu'il y a une certaine proportion de la population qui n'est pas diagnostiquée. On a longtemps dit que c'était 50%, probablement grâce au dépistage et au travail des ophtalmologistes. La proportion de sujets avec un glaucome non diagnostiqué est probablement plus faible que 50%. Néanmoins, le glaucome ne donnant pas de symptômes au début de la maladie, on va revenir là-dessus, et bien si on attend la perte visuelle pour se faire diagnostiquer et traiter son glaucome, ça veut dire qu'on arrive souvent trop tard. Alors comment est-ce qu'on fait le diagnostic de glaucome? Je vous ai expliqué, le glaucome, c'est une atrophie progressive du nerf optique avec la perte des axones, la perte des cellules ganglionnaires rétiniennes. Il faut perdre un certain nombre de cellules avant d'avoir des symptômes. C'est ce qui est représenté sur ce graphique. En général, on dit qu'il faut perdre entre 30 et 40% des cellules ganglionnaires de rétinienne, qui constitue, je vous rappelle, le nerf optique, avant d'avoir une atteinte du champ visuel. Donc vous voyez, il faut avoir perdu un certain nombre de ces cellules avant d'avoir une atteinte du champ visuel, et donc c'est une maladie qui est longtemps asymptomatique. Et donc on va, au début de la maladie, faire le diagnostic avec d'autres éléments que le champ visuel. Lorsqu'on voit un patient suspect de glaucome, on va d'abord faire un examen à la lampe à fente du segment antérieur. Qu'est-ce qu'on regarde de son segment antérieur, son aspect? La présence de dépôts qui nous ferait craindre un glaucome de type secondaire, type glaucome pseudo-exfoliatif ou glaucome pigmentaire. On va également regarder la profondeur de la chambre antérieure, puisque si la partie antérieure de l'œil est très étroite, on risque de s'orienter vers ce qu'on appelle un glaucome par fermeture de l'angle. Donc on regarde l'examen cornéen, l'examen de l'iris, l'examen du cristallin, afin d'éliminer d'autres maladies. On va ensuite mesurer la pression intraoculaire. C'est très important puisque c'est le principal facteur de risque de glaucome et c'est le seul élément sur lequel on va pouvoir avoir un traitement. Donc on mesure la pression intraoculaire. On peut le faire par différents moyens, à l'aplanation. Donc ça se fait à la lampe à fente. Il y a un petit cône qui vient s'appliquer sur l'œil. Et grâce à cette aplanation, on va être capable de déterminer la pression intraoculaire qui règne dans l'œil. On peut aussi mesurer la pression intraoculaire avec un tonomètre à air. C'est cet aspect qui donne comme un petit éternuement d'oiseau à la surface de l'œil. Cet appareil est capable, en envoyant un petit jet d'air sur la cornée, de donner la pression qui règne à l'intérieur. Il faut savoir que lorsqu'on mesure la pression intraoculaire, on mesure toujours la pachymétrie. La pachymétrie, c'est l'épaisseur de la cornée, puisque cette épaisseur de la cornée modifie la mesure de la pression intraoculaire. Lorsque la cornée est épaisse, on surévalue la mesure de pression intraoculaire. Lorsque la cornée est fine, on sous-évalue la mesure de pression intraoculaire. Donc, mesure de la pression intraoculaire, c'est très important dans le glaucome. On va ensuite examiner ce qu'on appelle l'angle iridocornéen. Je vous ai expliqué qu'il y avait deux grandes familles de glaucomes, les glaucomes à angle ouvert et les glaucomes à angle fermé. Il faut savoir comment est l'angle. Et ça se fait grâce à la gonioscopie, qui se fait également à la lampe à fente, grâce à un verre qu'on vient appliquer sur la surface de l'œil du patient après l'avoir anesthésié. Et on regarde justement l'angle iridocornéen pour voir est-ce qu'on voit les structures de l'angle ou pas. Et en fonction de ça, on va déterminer si l'angle est ouvert ou étroit, voire fermé. On va ensuite examiner le nerf optique, soit de manière clinique, c'est-à-dire l'examen de l'œil de l'ophtalmo, à la lampe à fente, en regardant le fond d'œil, ou grâce à des appareils comme l'OCT sur lequel on va revenir. L'examen du nerf optique, c'est fondamental, puisque vous avez compris que le glaucome, c'est une maladie du nerf optique. Donc on va d'abord faire le diagnostic si la pression intraoculaire n'est pas élevée, en regardant le nerf optique. Si évidemment la pression intraoculaire est élevée, c'est un signe qui va nous orienter, nous dire allez regarder le nerf optique, faites des examens parce qu'il y a peut-être là déjà un début de glaucome. Donc l'examen du nerf optique, c'est fondamental. Voici quelques examens. Un nerf optique normal à gauche, vous voyez, il a cette partie orange qui est tout à fait charnue que vous voyez ici. On a ainsi un nerf optique qui commence à s'abîmer avec déjà une atrophie qui commence. On voit que la partie inférieure du nerf optique commence à être absente jusqu'à un nerf optique très abîmé où on voit, je vous ai parlé du paquet de spaghettis, il n'y a plus de spaghettis dans ce cas précis, il ne reste plus que l'enveloppe. Ça, c'est un glaucome extrêmement sévère. Et je vous ai mis en bas la correspondance de ces nerfs optiques avec le champ visuel. Le premier nerf optique, c'est un nerf optique normal, le champ visuel est normal. Le deuxième nerf optique ici a une atteinte du nerf optique inférieur, ce qui donne une atteinte du champ visuel supérieur. Et ici, on a un nerf optique très sévère avec une atteinte du champ visuel très sévère, puisqu'il ne persiste qu'une une vision au niveau du centre du champ visuel. On est aidé aujourd'hui pour analyser le nerf optique par ce qu'on appelle l'OCT, pour Ocular Coherence Tomographie. Cet appareil, qui est un appareil qui ressemble à l'échographie, sauf qu'on a remplacé l'ultrason de l'échographie par de la lumière. C'est un appareil qui va être capable de mesurer des épaisseurs. On va donc mesurer autour du nerf optique l'épaisseur des fibres de ces axones des cellules ganglionnaires. On peut comme ça les quantifier et mesurer et se dire est-ce qu'il y a le patient a perdu les axones des cellules ganglionnaires ou pas. Et on compare les résultats à des bases de données, c'est pour ça qu'on a des couleurs. Vert, c'est quand le patient a des mesures qui correspondent au patient de la base de données. Rouge, quand on a un patient qui a des mesures diminuées par rapport au patient de la base de données. On peut faire ça au niveau du nerf optique, ici, avec l'OCT RNFL. On peut faire ça aussi au niveau de la macula, puisque les cellules ganglionnaires rétiniennes, on les retrouve au niveau de la macula, on retrouve leur axone, et on peut aller mesurer l'épaisseur de la couche des cellules ganglionnaires au niveau de la macula. Pourquoi c'est intéressant au niveau de la macula? Parce que vous le savez, la macula est la zone centrale du fond d'œil qui permet de donner l'acuité visuelle. Donc c'est important d'aller mesurer les cellules ganglionnaires à cet endroit précis. Ces appareils permettent également de faire le suivi dans le temps. On peut faire le suivi du nerf optique. Vous avez ici un nerf optique qui va petit à petit s'atrophier. Si vous regardez ici le vaisseau sanguin en inférieur, vous voyez que petit à petit, il prend un aspect de coude. S'il prend cet aspect de coude ici en inférieur, c'est que la quantité des fibres au niveau du nerf optique diminue. Et on peut également le faire en OCT. Vous avez ici l'image en OCT. On voit, on peut suivre comme ça l'épaisseur des fibres autour de la tête du nerf optique et se dire voilà un patient où l'épaisseur des fibres est stable, on est rassuré, le traitement est efficace, les choses sont stables. Un autre examen qui est indispensable et très important dans le suivi du glaucome, c'est l'analyse du champ visuel. Vous avez compris, le glaucome, c'est une atteinte du nerf optique qui donne une atteinte clinique de la papille. La papille, c'est la partie du nerf optique qu'on voit dans le fond d'œil. et une atteinte du champ visuel. Et donc c'est très important de mesurer le champ visuel puisque le champ visuel représente l'atteinte fonctionnelle du patient. On distingue en général l'atteinte structurelle, c'est l'atteinte du nerf optique, et l'atteinte fonctionnelle, c'est sa conséquence sur la vision, et sa conséquence se mesure en champ visuel. Voilà un appareil de champ visuel avec un patient en train de passer ce champ visuel. Le champ visuel, c'est tout simplement une coupole dans laquelle apparaissent des points lumineux, et le patient va être capable, en fonction de sa capacité de champ visuel, de voir une intensité lumineuse. On mesure comme ça, pour différents points de la rétine, l'intensité lumineuse qui est capable de voir le patient. Et on fait comme ça une cartographie du champ visuel avec des zones que le patient est capable de voir et d'autres zones que le patient n'est pas capable de voir et des zones déficitaires. Vous avez à gauche un champ visuel normal, à droite un champ visuel avec une tache, vous voyez, que vous commencez à apparaître sur la gauche du champ visuel ici. Ça, c'est une atteinte du champ visuel débutante chez un sujet glaucomateux. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a toujours une petite tache noire ici décalée dans la partie du champ visuel. Ça correspond à ce qu'on appelle la tache aveugle. C'est une zone normale, c'est ce qu'on appelle un scotome. Dans le champ visuel, il y a toujours une zone déficitaire, c'est la zone par laquelle arrive le nerf optique. Cette zone est dépourvue de photorécepteurs et donc un champ visuel normal a toujours une petite tache noire au centre. Ça s'appelle la tache aveugle. Par contre, sur le champ visuel de droite, vous vous rendez compte qu'il y a une autre tache beaucoup plus grosse ici qui correspond à un déficit glaucomateux. Voici d'autres images et voyez ici sur l'image de gauche la progression du déficit du champ visuel. Vous voyez petit à petit cette zone noire augmente de taille. Ça, c'est l'augmentation, la progression du déficit du champ visuel chez un glaucome qui s'aggrave. On a aujourd'hui des outils qui nous permettent de mesurer cette aggravation précisément. C'est ce graphique qu'on a ici. Vous voyez, ça place ici l'atteinte du champ visuel du patient en fonction de mesures ici qui sont quantifié, et on peut comme ça voir que voilà un patient qui s'aggrave très rapidement avec une perte très rapide du champ visuel. Alors que l'autre patient ici sur la droite, vous voyez, ses champs visuels sont stables, on ne voit pas d'aggravation. Voici encore une autre image avec des déficits du champ visuel, vous voyez, supérieurs, et on voit ici une progression très rapide de l'atteinte sur l'image de gauche, alors que sur l'image de droite, voilà un patient qui est bien contrôlé, où les champs visuels restent stables dans le temps. Nous avons également d'autres systèmes, des systèmes d'imagerie du segment antérieur qui permettent justement de voir si l'angle est ouvert ou fermé, non plus à l'examen clinique, mais grâce à des examens d'imagerie, ça c'est l'OCT. Vous voyez, on a une vue de ce qu'on appelle le segment antérieur de l'œil, avec ici la cornée, l'iris, le cristallin en arrière, et vous voyez ici, on voit un angle iridocornéen, donc l'angle entre l'iris et la cornée, qui est tout à fait ouvert. Alors que sur l'image du dessous, on voit que l'angle entre l'iris et la cornée est étroit. C'est donc ici un mécanisme de fermeture de l'angle. L'échographie aujourd'hui nous permet d'avoir beaucoup d'images de l'angle iridocornéen et de trouver les mécanismes à l'origine de la fermeture de l'angle. Donc vous avez compris, pour résumer, le glaucome c'est une maladie du nerf optique dont le principal facteur de risque c'est l'élévation de la pression intraoculaire. Néanmoins, il y a d'autres facteurs de risque qui entrent en ligne de compte, pardon, comme l'âge. Et vous avez compris que certains patients peuvent également développer un glaucome sans élévation de la pression intraoculaire. Le glaucome, c'est une maladie du nerf optique, donc ça s'accompagne d'une atrophie de ce qu'on appelle la papille, qu'on va pouvoir voir à l'examen du fond d'œil, et d'atteinte du champ visuel, qu'on va pouvoir mesurer grâce au champ visuel. J'espère que grâce à cette présentation, vous avez mieux compris ce qu'était le glaucome, et vous allez maintenant avoir une présentation sur le traitement du glaucome. Et bien évidemment, je serai là pour vous expliquer et répondre à toutes vos questions lors de la séance en présentiel. Je vous remercie pour votre attention.